On va retrouver notre invité David Graeber. Vous nous direz s'il est plus ou moins anarchiste que cette nouvelle ZAD qui s'est développée donc selon vous au siège des Républicains. David Graeber est en tout cas un anthropologue. C'est l'un des inspirateurs du mouvement Occupy Wall Street. Il est en France à l'invitation du Collège de France. Il va demain d'ailleurs donner une conférence au Collège à 18h30. Et il a notamment publié un livre intitulé « Bureaucratie » paru aux éditions des Liens qui libèrent. Cette comparaison avec mes 68, je crois qu'il y avait un peu d'ironie dans les propos de Frédéric Saïs, mais au bout du compte, vous êtes là justement à l'occasion du mouvement du 22 mars qui a 50 ans, qui aura 50 ans demain. Comment jugez-vous ces formes de contestation passées, présentes, avec la contestation que vous avez fomentée avec Occupy Wall Street, David Graeber?
Manuel Wallerstein, the great,
Manuel Wallerstein, le grand historien, a avancé l'argument qu'il y avait deux révolutions mondiales dans notre vie, au cours de notre propre vie. La révolution mondiale de 1968 et celle de 2011. Les révolutions n'ont plus besoin de saisir le pouvoir dans un pays particulier pour transformer le monde. Ça a besoin simplement de changer ce qu'on appelle le sens commun politique. Et je crois que ces deux époques ont fait la même chose.
Qu'est-ce qui a changé 1968 pour vous, David Graeber?
68
a marqué, en termes de révolution imaginaire, c'est le point, l'acmé du modèle révolutionnaire à l'ancienne, avec les intellectuels et les ouvriers, la main dans la main, contre la bureaucratie de l'État et du capitalisme. Mais c'était aussi le signe d'une transformation de libération personnelle, surtout, je pense. La transformation des relations sociales qui ont commencé même avant les transformations économiques. Et je crois que les transformations sociales qui se sont produites ont été très très profondes à l'époque. La montée du féminisme, l'antiracisme, il y a eu des changements sociaux très profonds qui ne se seraient pas produits sans 1968.
Et Occupy Wall Street, lorsqu'on vous dit que le bilan d'Occupy Wall Street est mince, voire inexistant, David Graeber, qu'est-ce que vous rétorquez?
Je crois que la meilleure façon de contrer cela, c'est de regarder les enquêtes faites chez les jeunes aux États-Unis. Si vous regardez ce que pensent les jeunes entre 18 et 30 ans, la majorité disent qu'ils sont aujourd'hui anticapitalistes aux États-Unis. Mais est-ce que ça se produisait avant? Ça ne s'est pas produit parce qu'ils regardaient simplement la télé.
Qu'est-ce que ça signifie, anticapitaliste?
C'est une des choses intéressantes. Les jeunes Américains disent qu'ils sont en faveur du socialisme, mais ils ne savent pas ce que signifie le socialisme parce qu'ils n'ont aucun exemple. C'est simplement un rejet de l'ordre établi et un désir de vivre quelque chose d'autre. Ils s'en foutent, ils savent ce que c'est que le capitalisme, grosso modo, et ils le haïssent.
Mais alors, justement, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de théoriciens en France qui disent que mai 68 a été en quelque sorte une fraude, c'est-à-dire que sous prétexte de faire la révolution, on a mis au pouvoir d'autres gens, on a mis au pouvoir une classe créative, on a finalement créé une sorte de folklore de la révolution. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne pense pas qu'il y ait eu fraude. Il est vrai que il y a eu une classe de gens, disons que ils ont saisi le contrôle de toutes les carrières où l'on pouvait poursuivre quelque chose d'autre qu'une pure valeur économique. Par exemple, par rapport au populisme de droite, vous savez, la classe ouvrière a à voir avec ça quand elle a ce rejet des intellectuels. En Amérique, par exemple, Vous savez, l'école bleue haïsse les intellectuels, ce qu'on appelle les intellectuels. C'est pas légitime entièrement, parce que si moi je suis un conducteur de camion au Nebraska, je sais qu'il y a une possibilité que mon fils puisse faire des études et s'enrichir. Mais jamais, jamais mon fils, à moi, conducteur de camion, ne deviendra critique littéraire dans le New York Times. C'est tout simplement impossible. Donc, c'est clair que ce conducteur va avoir un ressentiment contre cette classe intellectuelle. Et transformer le monde, bon, c'est... Ils ne peuvent pas le faire à cause de la société. Donc, ils le font, ou ils essaient de le faire pour leurs propres enfants.
Et donc, c'est le conducteur de camion du Nebraska qui a élu Donald Trump ?
Très probablement, oui. C'est la base du populisme de Reagan, de Trump. Et il y a un substrat qui... Il y a beaucoup de gens qui pensent que le système américain est corrompu. C'est une politique américaine corrompue. Et ils ont raison. Et nous, on a essayé de le pousser dans la bonne direction. Social. Mais dès que la gauche du Parti démocrate a simplement compris que nous ne voulions pas faire partie du système politique, mais nous voulions apporter une alternative, eh bien, ils nous ont laissé tomber. Et Occupy Wall Street a été détruit, puis voilà.
La gauche du Parti démocrate a même dit que vous étiez des ennemis, des adversaires, en ce sens que finalement, en critiquant la gauche modérée, vous favorisiez les républicains. Et qu'est-ce que vous répondez à ça, David Graeber?
Ils nous ont d'abord attaqué. C'est eux qui ont commencé. Non, je ne pense pas qu'ils nous aient compris moralement.
Au-delà de ça, quand vous voyez l'élection de Donald Trump, j'aimerais tout d'abord avoir votre analyse de cette élection et du personnage, et que vous le comparez à ce qu'est la gauche dite modérée aux États-Unis, ce qu'incarnait Barack Obama. Est-ce qu'on ne peut pas se dire malgré tout que vous y avez perdu au change ?
No, of course not. I mean,
non, on ne peut pas dire ça. Vous savez, les grands partis sont vraiment... ils veulent rester au pouvoir. Ce sont des très mauvais politiciens. Personne ne les aime. Mais si eux peuvent avoir le contrôle du parti, les gens vont voter pour eux. Donc ils vont vers les classes ouvrières. Ils disent, non, non, vous n'avez pas le choix, vous devez voter pour nous. Et donc beaucoup de gens ont dit, non, mais moi je ne vais simplement pas voter. Parce que la petite bourgeoisie, c'est eux qui ont voté pour Trump, c'est pas la classe ouvrière. La classe ouvrière n'a tout simplement pas voté. Et on ne peut pas nous blâmer pour cela. Nous tentons d'exprimer leur colère et de dire aux gens quel était le message qu'ils voulaient entendre.
Est-ce que finalement vous n'auriez pas mieux fait de faire campagne pour Hillary Clinton ?
Absolument pas. Non. Elle a détruit le Parti démocrate et elle doit accepter la responsabilité de ce qu'elle a fait. C'est étonnant qu'elle ait pu perdre cette élection. La personne contre laquelle elle se présentait est totalement incompétente.
Incompétente peut-être, mais semble-t-il, il rejoint les aspirations d'un certain nombre d'électeurs américains. Aujourd'hui, on dit même que s'il y avait des élections, il ne serait pas nécessairement battu. Peut-être que c'est cela l'Amérique et que les 99% d'Occupy Wall Street sont en réalité très minoritaires. Comment vous vivez cela, vous, David Graeber ?
Bernie Sanders would have easily beaten Donald Trump, and pretty much everyone knows
non,
that.
Non, Bernie Sanders aurait pu battre Trump. S'il y avait vraiment eu un candidat de gauche, eh bien, non, mais tout simplement, tout a été utilisé pour le marginaliser. Maintenant, on s'attaque à Trump simplement de la manière qui renforce la partie droite du Parti démocrate.
Comment voyez-vous l'avenir avec Donald Trump ? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une politique véritablement efficace ? Est-ce que vous assistez à la recomposition du Parti démocrate ?
Question très intéressante. La partie droite du Parti démocrate tente de revenir au pouvoir de façon désespérée. Ils n'ont pas de politique. Ils disent que non, c'est pas la peine d'avoir une politique, mais si on a simplement le pouvoir sur le Parti démocrate, on reviendra au pouvoir, pensent ces gens-là. Et dans le même temps, Trump. C'est très intéressant, parce que je dirais que l'élection, Hillary Clinton contre Donald Trump. Je pense que la meilleure façon de comprendre cela, cette élection, c'est de le divorce entre la finance et l'immobilier. Parce que traditionnellement, l'immobilier était conservateur. Il fallait avoir un appartement. Et Trump vient de l'immobilier et vient du BTP. Et il a été libéral autrefois. Et voilà, on arrive à cette crise économique et il y avait une alliance entre la finance et l'immobilier. Et si les gens voulaient s'acheter une maison, ben voilà, ils pouvaient leur prêter de l'argent en même temps. Bien sûr, avec la crise des subprimes, ça ne fonctionnait plus. Et Trump peut être considéré comme étant ce divorce-là. Et Hillary Clinton, elle, c'était la candidate de Wall Street. Elle était soutenue par la haute finance. Et dû à la qualité de l'Amérique, elle était aussi en faveur du complexe militaro-industriel. Et Trump, par contraste, il a fait une campagne très classique. Il dit, moi, je représente le high-tech, le BTP, l'immobilier, très classique. Et les gens disent que les employeurs et les employés de l'industrie ont des intérêts communs contre Wall Street. Eh ben voilà, on peut prendre ça comme une direction sociodémocrate ou comme une direction fasciste. Et lui, il l'a prise du côté fasciste. Mais dû à la culture particulière de l'Empire américain, le candidat fasciste, c'était le candidat de la paix.
Alors vous le qualifiez de fasciste, mais alors il a une particularité, Donald Trump, c'est qu'il déteste tellement Washington qu'il est en train de détricoter l'appareil d'État. Alors par exemple, il y a toute une série de postes qui n'ont pas été pourvus, les gens valsent, il n'y a pas de permanence dans les administrations, c'est tout le contraire de ce que l'on valorise en France, de cette bureaucratie qu'on valorise et que vous n'aimez pas, puisque vous avez publié un livre contre la bureaucratie, David Graeber. Est-ce que finalement le nihilisme de Trump, il n'est pas tout à fait conforme à celui des anarchistes que vous représentez, David Graeber?
What about denialism? I don't
D'une certaine manière, il est nihiliste. C'est quelqu'un qui est opportuniste. Il n'a aucune perspective à long terme. Mais s'il en a une, c'est un anti-impérialiste d'une certaine manière. Et il dit, mais pourquoi est-ce que les pays ne peuvent pas payer pour leur propre défense? Et le système financier international, c'est une façon de dire que, en fait, les États payent chacun pour leur propre défense en achetant les obligations américaines. Et lui, il dit qu'il veut détruire ce système et revenir à une politique plus industrielle de America First, l'Amérique d'abord, comme il dit. Donc il y a une stratégie assez vaste. Mais d'abord, quand il est arrivé au pouvoir, il semblait que c'était simplement du blabla, des mots. Et soudain, il a engagé tous ces gens de Goldman Sachs. Et puis, de façon beaucoup plus subtile, il a détricoté l'Empire américain. Il y a encore 32 personnes au département d'État, et puis il n'y a personne d'autre, c'est tout. Il désassemble l'appareil de l'Empire américain.
Mais ça, c'est pas bien?
Je suis très très heureux de voir ça.
Il y a deux types d'anarchistes aux États-Unis. Il y a des gens comme vous, anarchistes de gauche, d'extrême gauche, et puis il y a des anarchistes de droite. Donald Trump est proche d'un certain nombre de libertariens. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors, eux considèrent, par exemple, qu'il faut moins d'État, pas d'État du tout, pas d'État par exemple pour le port d'armes, pas d'État pour la couverture maladie. Quel rapport vous entretenez avec ces libertariens, David Graeber?
Je pense que ce type de libertarianisme est basé sur une fausse analyse de l'histoire, une mauvaise analyse de l'histoire. Il y a 250 ans, on nous disait que l'État et le marché sont des termes opposés et que la politique, c'était un choix entre les deux. Combien de marché par rapport à combien d'État? Mais quand on regarde l'histoire, et ça c'est une des choses que je tentais de décrire dans mon livre, c'était véritablement de regarder ce qu'était l'histoire, les relations entre l'État et le marché. Ce que l'on voit, c'est que l'État et le marché sont liés. Il n'y a pas de marché libre de la façon dont on y réfléchit s'il n'y a pas d'État. Et en fait, les marchés impersonnels tels qu'on les a décrits sont une opération militaire qui crée des façons d'approvisionner les soldats, les militaires. Donc il n'y a pas d'opposition véritable entre l'État et le marché. Ils ont été liés dès le début.
Il y a au moins une chose qui aujourd'hui nous vient d'Amérique. Alors, si on met de côté le phénomène Donald Trump, il y a eu la vague du MeToo qui est partie des États-Unis, qui est partie d'une enquête du New York Times, qui est partie donc de l'affaire Weinstein quand on a découvert les agissements donc de ce producteur hollywoodien. Votre regard sur ce qui s'est déroulé, je crois aussi que votre mère est une ancienne actrice, David Graeber.
I wrote a column about that.
J'ai écrit un article à ce sujet, un édito. Cette histoire me dérange beaucoup, en fait. Et ma réflexion revient à ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn à New York. Je me souviens, trois semaines après son arrestation, il y a eu une seconde arrestation. Un autre banquier, je pense qu'il était égyptien, aussi dans un hôtel de New York, qui a tenté aussi, semble-t-il, de violer une femme de chambre. Et je me suis dit, ça ne peut pas être un copier-coller. Parce que, avec toute la mauvaise publicité sur DSK, personne n'aurait pu penser « Ah bah tiens, je vais faire la même chose ». La seule explication possible, c'était que des banquiers riches eh bien, violent des femmes de chambre tout le temps. Ça doit se produire tous les jours. Et normalement, les femmes de chambre ne peuvent pas aller voir les policiers pour se plaindre d'ordinaire, non? Et donc, et ça m'a fait réfléchir à ma propre histoire. Ma mère était une employée dans une usine. Elle était très intelligente. Et à l'âge de 16 ans, elle est allée à la fac. Elle a dû quitter la fac pour pouvoir aider la famille et aller travailler. Mais le syndicat l'a mis dans une revue musicale, dans un spectacle musical, pour les gens qui travaillaient dans le vêtement. Et c'était un succès extraordinaire. C'est devenu vraiment un hit sur Broadway. Et elle était l'actrice principale. Et tout le monde disait, ah, c'est un génie comique. Et elle l'était, oui, moi, c'est une des femmes les plus drôles que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Et pendant trois ans, elle a été une étoile, une star. Et puis voilà, elle est retournée travailler à l'usine ensuite. Et j'ai grandi avec cette idée, en disant que voilà, c'est ce qui se produit normalement. Et je lui ai jamais demandé, mais pourquoi t'as pas continué la fac, pourquoi t'es pas retourné jouer sur scène? Et à un moment, elle m'a dit, mais non, je manquais de confiance en moi. Et puis à un moment, elle a admis un jour devant moi que y avait le canapé sur lequel il fallait passer. Et moi, je voulais pas y passer. Et donc, même dans les années 30, c'était la même chose. C'était institutionnalisé. C'était comme ça. Et ça m'a fait réfléchir sur les dommages causés aux vies des gens. Quelque chose, je ne connais pas les détails parce que maintenant elle est morte, elle ne me racontera plus, mais quelque chose qui lui a détruit son sens de l'ego, de qu'elle valait la peine, sa confiance en elle, qu'elle aurait pu aussi aller au collège, elle aurait pu aller à la fac, qu'elle n'avait pas besoin d'être une travailleuse du sexe, par exemple, si pour arriver à ça. Et voilà, il y a des aspects de la vie des gens que l'on ne connaît absolument pas.
Tout autre sujet. Aujourd'hui, on célèbre le nouvel an kurde et vous êtes un partisan de la cause kurde. Vous vous exprimez très fréquemment sur Twitter par le biais d'articles sur ce qui se déroule au Kurdistan. Expliquez-nous ce qui s'y déroule et pourquoi vous avez décidé d'épouser cette cause-là, David Graeber.
Well, I found that the
C'est pas que j'ai trouvé les Kurdes, c'est les Kurdes qui m'ont trouvé tout d'abord. Et il y a eu une transformation du PKK et dans le mouvement de libération kurde, la gauche kurde, qui a véritablement transformé son idée de la politique et ça nous inspire beaucoup. La plupart des gens ne savent pas que le PKK, qui a été un parti marxiste, léniniste, traditionnel, classique, a laissé tomber le séparatisme. Ils ne veulent plus un État séparé. Ils ont abandonné beaucoup des bases du marxisme, mais ils ont adopté une idée assez anarchiste de la démocratie, principalement inspirée par Mary Kupchan, l'anarchiste américaine, le confédéralisme à l'américaine. Et de plus, il y a eu véritablement une adhésion au féminisme, ce qui a fait advenir beaucoup de femmes qui ont combattu dans ce mouvement. Et donc, d'une certaine manière, ce sont des gens qui tentent de créer exactement les mêmes choses que nous tentons de créer, mais dans un environnement totalement, radicalement différent. Et je leur suis redevable et j'essaie de les aider.
Comment peut-on les aider ?
Bien, pour l'instant, la chose la plus importante à faire, c'est de faire comprendre aux gens ce qu'est la situation géopolitique en Syrie. Ce qui se passe, c'est que la Turquie fera absolument tout pour détruire cette expérience-là. C'était la menace du bon exemple, ce qu'on appelait la menace du bon exemple. La plupart des gens ne savent même pas qu'il y a une tentative depuis 2015. Le mouvement kurde en Turquie a tenté d'avoir des négociations de paix en abandonnant la lutte armée. Ils sont passés dans l'opposition politique, qui s'est assez bien débrouillée, qui est arrivée au Parlement. La plupart des cités kurdes ont élu des représentants et des assemblées radicales. Ils ont tenté de créer cette démocratie du bas vers le haut. Le gouvernement turc a tenté, a commencé à arrêter et à tuer ces gens-là. Finalement, ça a mené à une guerre civile où 12 villes ont été totalement détruites par leur propre armée. Et maintenant, ils essayent de détruire cette tentative aussi de sociétés différentes en Syrie. Et il faut faire comprendre aux gens ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui se passe à Afrin. C'est une attaque totalement non provoquée, une attaque turque. Et les Kurdes, eux, ont été pacifiques. Et parce qu'il n'y avait pas de guerre en Afrin, il y a eu le développement de ces institutions démocratiques par les Kurdes qu'ils voulaient faire ailleurs, alors qu'ils n'avaient pas à se battre. La plupart des gens ne savent pas que 2/3 des gens qui avaient des positions officielles à Afrin, c'était des femmes. C'est peut-être la première fois dans l'histoire où il y a une majorité de femmes dans une institution, dans ces pays-là. Et ces gens sont attaqués par des extrémistes de droite islamistes, des fascistes, des gens qui ont fait partie de Daesh ou d'Al-Qaïda, qui ont changé d'uniforme et qui sont devenus des auxiliaires de l'armée turque. Et de façon étonnante, ces gens de Daesh sont soutenus par l'armée de l'OTAN, alors que ces gens-là, ils se battent contre des gens qui étaient, qui sont des féministes. Les gouvernements européens sont du côté des islamistes dans cette région.
Mais alors, justement, lorsque l'on voit la carte du monde, il y a une trentaine d'années, on expliquait qu'on était en marche vers la démocratie. Aujourd'hui, on semble être en marche vers la dictature en Turquie, en Russie, en Chine. Est-ce que les anarchistes, si vous pouvez parler en leur nom, David Graeber, est-ce qu'il ne ferait pas bon, en quelque sorte, faire une coalition de ceux qui sont encore démocrate. Est-ce que le principal danger aujourd'hui, ça n'est pas la dictature sous toutes ses formes, plus que les mouvements plus ou moins libéraux qui, jadis, pouvaient être perçus comme des dangers pour l'extrême gauche?
Well, I think that what we're seeing is
ce que nous voyons en ce moment, c'est l'État qui se démasque.
I mean, we can tell the state to put its mask
on peut dire à l'État de remettre son masque.
Or we could try to get
on pourrait essayer de se débarrasser de ceux qui nous oppriment. Je ne peux pas parler au nom des anarchistes. Moi, je suis un individu simple. Je pense qu'il est très important de rejoindre les gens de bonne volonté et de les aider à résister à ce nihilisme qui devient de plus en plus vu dans le monde. L'erreur qui a été faite par le Parti démocrate aux États-Unis, c'était de ne pas comprendre ce que la droite a compris. D'être une, pour pouvoir être une force politique viable, vous devez avoir les radicaux avec vous. Et vous devez avoir la droite extra-parlementaire et la gauche extra-parlementaire aussi dans vos rangs.
David Graeber, vous restez avec nous. Vous avez été traduit par Michel Zlotowski. On pourra vous entendre demain au Collège de France à 18h30 à condition d'avoir réservé sa place sur le site internet du Collège de France. On peut vous lire aussi, vous avez notamment publié « Pour une anthropologie anarchiste » chez Lux Éditeur. C'était en 2006 et puis aussi « Bureaucratie ». Cette fois-ci, c'est au Lien qui libère et demain au Collège de France, l'entrée est libre, pardon, dans la limite des places disponibles.